qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Mais quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale.
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial du vendredi, comme tous les vendredis, une conversation mondiale, et on l'a compris, sur le Liban. À l'ordre du jour ce soir, qui parle au nom du Liban, en ouverture de la série d'émissions spéciales dont vous venez de parler de France Culture toute cette fin de semaine, émission qui accompagne l'opération Paris-Beyrouth 24 heures pour le Liban sur le parvis de Lima à Paris. Nous sommes partenaires, nous ferons dans un instant dialoguer à distance la cinéaste franco-libanaise Danielle Arbide et l'écrivaine, journaliste, activiste Joumana Haddad à propos de celles et ceux qui parlent au Liban et dans le monde entier de ce pays, et parmi eux, on l'a compris, eh bien il y a Jacques Lang. Bonsoir Jacques Lang.
Bonsoir.
Alors justement, on va parler du Liban pendant tout le temps, tout ce temps à l'Institut du Monde Arabe, mais on va parler aussi du Liban d'aujourd'hui, bien évidemment, de ce qui est arrivé, de cette catastrophe dont vous venez de parler avec Marc Potvin, mais également de ce qu'elle dit de l'histoire de ce pays, et en particulier de son patrimoine. Un petit mot, vous l'avez esquissé tout à l'heure, sur cette association Alif, cette fondation Alif, basée en Suisse, qui s'est rendue pour pouvoir aider la ville de Beyrouth dans la reconstruction, et en particulier la reconstruction de son patrimoine.
Un mot d'abord, je ne l'ai pas dit assez clairement à l'instant. Je me réjouis que France Culture soit engagée totalement dans ce week-end pour le Liban. L'Institut du Monde Arabe et France Culture, deux grands services publics, allient leurs forces, leurs talents.
Et qui travaillent souvent ensemble, d'ailleurs.
Ils travaillent souvent ensemble, mais là, il y a véritablement un engagement très fort par cette simultanéité des deux opérations, l'opération Institut du Monde Arabe, l'opération France Culture, et je veux remercier la directrice de France Culture.
Alors justement, sur cette question du patrimoine, on sait que vous y êtes sensible depuis très longtemps, Jacques Lang. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par cette institution qui s'appelle Alif, donc qui s'est rendue sur place, et comment peut-on sauver ce patrimoine, en particulier le vieux patrimoine ottoman de Beyrouth, mais pas simplement, qui a été largement entamé par cette explosion?
Alif, c'est une institution que à la création duquel j'ai contribué voici deux ans. C'était une initiative du président de la République, François Hollande, et des responsables des Émirats Arabes Unis pour précisément venir en aide aux pays qui sont victimes de guerres, de conflits ou de dommages. Ça s'applique en particulier à la Syrie, Palmyre, à Alep, à Mossoul et à d'autres au Yémen. Et on a décidé, les dirigeants d'Alif, qui sont installés à Genève maintenant, ont décidé d'apporter leur contribution au relèvement des monuments de Beyrouth. Et les désastres sont considérables. Musées, architecture traditionnelle, et le premier plan annoncé par ces dirigeants, je crois d'un montant de 5 millions d'euros, mais d'autres initiatives vont suivre.
Et donc, ça permettra peut-être, dans un moment de dénuement que vous avez décrit tout à l'heure, d'abord aux Libanais de reconstruire une partie de la capitale libanaise, et donc de permettre au patrimoine libanais de perdurer par-delà le temps. Ça fait partie d'une mission, cette mission Alif et d'autres initiatives comme celle de l'Institut du Monde Arabe, qui permettent de comprendre, et c'est ce dont on va parler avec nos invités dans un instant, dans le temps du débat et cette conversation mondiale, de comprendre l'engagement, comme vous le disiez tout à l'heure, des Français, de la France et des Français auprès des Beyrouthins et des Libanais en général.
Rajoutons que l'UNESCO, évidemment, apporte sa contribution à cette œuvre collective.
Merci beaucoup, Jacques Lang. Je vous laisse retourner du côté de l'Institut du Monde Arabe où vont commencer les cérémonies et les discussions.
De 19h30 à minuit aujourd'hui et demain de 19h30 à minuit. Bienvenue
Merci.
À Lima.
Merci.
احنا من ناسي منطير ومنرتد على التدمير استتجرا بسؤال عن تدهور الاحوال بيسكتوا كبش عرات عن كل المؤامرات خونوا كل قطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يأسوك حتى تبيع حريتك لما يضيع الوطن قالوا لك حاجة تبشر
Vous écoutez France Culture, le temps du débat, émission spéciale du vendredi, la conversation mondiale. Et après avoir entendu Jacques Lang à propos de cette opération spéciale qui justifie notre émission et bien d'autres dont je donnerai le programme tout à l'heure, eh bien, entrons dans la discussion, discussion à distance avec nos deux invités. On vient d'écouter, il faut le dire, la musique Lilouatane du groupe Mashrou Leila, qui était aussi au cœur de ce festival, de ces 24 heures pour le Liban, et il y sera pendant tout le week-end. Le texte de la conversation mondiale qui est sur notre site est écrit depuis New York par Haïk Papazian, violoniste de ce groupe Mashrou Leila, et il s'intitule « De Beyrouth à Beyrouth ». Travail en cours sur justement cette réflexion qu'il peut mener depuis New York sur ce qui est arrivé à sa ville. On va en parler avec nos deux invités. Daniel Arbid, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste et vous êtes en discussion avec Joumana Haddad. Bonsoir.
Bonsoir.
Depuis Beyrouth, écrivaine, journaliste et activiste, nous avons choisi de vous demander de parler parce que toutes les deux, vous pouvez discuter peut-être différemment de ce qu'on dit d'habitude sur Beyrouth, sur le Liban. Vous avez des œuvres qui sont des œuvres un peu coruscantes ou corrosives, comme on dit parfois, sur ce pays, sur cette ville aussi de Beyrouth. Qu'est-ce que vous pensez justement, la question que nous posons, c'est qui parle pour le Liban ? Joumana Haddad, est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de gens, et peut-être trop de gens, parlent pour le Liban ?
Évidemment, c'est très vrai, mais le problème, c'est-à-dire la cause principale du fait qu'il y a trop de gens qui parlent pour le Liban, c'est le fait que nous ne sommes pas encore arrivés à être un peuple. Nous sommes des peuples différents. Mais si je devais répondre à la question qui a maintenant le droit de parler pour le Liban, je choisirais sans hésiter les jeunes du Liban. Parce qu'ils ont tout d'abord joué un rôle très important depuis la révolution du 17 octobre, mais aussi après cette explosion criminelle du 4 août. Ils ont été très, ils et elles, ont été très actifs, très présents. Et évidemment, il y a cette vision du Liban qu'ils veulent, que moi et ma génération, nous avons essayé de réaliser, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas pu. Donc, j'aimerais bien que ces jeunes prennent le relais et soient, eux, la voix de ce pays et du futur de ce pays.
Et sur ce point, Daniel Arbid, qui parle pour le Liban, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit par Joumana Haddad, c'est-à-dire ces jeunes, mais peut-être d'autres personnes. Et vous qui vivez en France, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que nous parlons trop, mal, pas assez bien, de manière faussée, de ce pays, ou est-ce que c'est autre chose ?
Je rejoins Joumana sur un point, sur le fait que ce sont les gens dans la rue qui parlent aujourd'hui pour le Liban. Mmh. Pour moi, qui suis à l'extérieur, en tout cas, ils parlent pour moi, là-bas. Est-ce qu'ils sont jeunes ou moins jeunes ? En fait, je ne sais pas s'ils sont jeunes. Je m'en fous qu'ils soient jeunes, à vrai dire. Pour moi, j'ai vu des gens dans la rue qui étaient des vieux croulants et qui marchaient avec beaucoup de dignité et de force et qui parlaient et qui manifestaient. Donc, c'est pas une question de génération. Moi, je suis pas très optimiste sur les histoires de génération. Je pense que c'est un problème viscéral au Liban de sa constitution, de comment il est fait. Il est fait de plusieurs religions et c'est ça la richesse et le problème du Liban. Et ça ne ça ne disparaîtra pas avec la nouvelle génération. Malheureusement, on aurait bien aimé, mais je ne suis pas à ce point-là...
Optimiste.
Optimiste, ouais.
Ce qui veut dire que vous pensez que personne n'est en position véritablement de parler pour le Liban aujourd'hui, alors pas plus le gouvernement libanais, le Parlement, enfin bon, toutes les institutions que nous connaissons bien de ce pays, mais aussi, parce que c'est aussi une surprise, un président étranger comme le président français qui se met en position de parler pour le Liban et de dire voilà ce qu'il faut faire, par exemple.
En tout cas, certainement, c'est pas du tout le président libanais qui doit parler pour le Liban. Lui, il ne vaut rien. C'est une catastrophe. Ni le Parlement, encore moins, qui c'est une sorte de bande de voleurs, et le gouvernement qui n'existe pas. Donc c'est pas cela.
Pour l'instant, il n'existe pas.
Et les banquiers, aujourd'hui, la pire insulte que vous pouvez dire à quelqu'un, c'est vous êtes un banquier libanais. Donc parce qu'ils ont volé tout. Donc c'est toute cette bande de médiocres, ils peuvent pas parler. Effectivement, ceux qui peuvent parler vraiment, c'est vraiment ceux qui ont manifesté à partir d'octobre, ceux qui ont aussi été meurtris dans leur vie depuis le 4 août. C'est ceux-là qui parlent, c'est ceux-là qui ont le droit de dire, qui ont vu et qui peuvent témoigner. Et puis tout le monde, tous les gens qui sont censés, tous les artistes, tous les gens qui se battent depuis toujours, qu'ils soient dans la montagne ou dans la ville, à la montagne ou dans la ville. En fait, c'est le peuple aujourd'hui qui fait ça, qui descend dans la rue et qui essaye. Ces gens aussi qui se battent, qui prennent des coups. C'est cela, c'est cela en fait notre voix.
Ceux qui ont le droit à la parole. Joumana Haddad, sur ce point.
Alors, je voudrais dire que tous les pays sont faits de plusieurs religions. Le fait de répéter cela, et je le dis avec beaucoup de respect pour Daniel, le fait de dire que le Liban est fait de plusieurs religions et c'est la richesse du Liban et sa détresse en même temps, c'est l'une des raisons principales, le fait d'insister que nous sommes de religions tous, de religions différentes, le fait d'insister sur cela, c'est l'argument principal qu'utilise la bande de voyous qui nous gouverne depuis des dizaines d'années pour séparer les gens et les empêcher d'avoir confiance l'un dans l'autre. Donc, pour moi, oui, j'insiste et très ardemment sur l'espoir que j'ai dans la nouvelle génération, parce que je note chez eux tout d'abord quelque chose de très important, c'est qu'ils ne sont pas aussi intoxiqués par le confessionnalisme libanais cancéreux autant que les générations un peu plus âgées. Donc, évidemment, les gens dans la rue, mais aussi, pourquoi j'insiste sur les jeunes, parce que quand cette révolution a commencé, c'est tout d'abord les jeunes, surtout, qui étaient dans la rue, et tout le monde a noté que lorsque quelqu'un osait dire « Nous sommes tous ensemble, chrétiens et musulmans », il y a beaucoup de jeunes qui ont dit « Non ». On en a assez d'entendre cela. Nous sommes ensemble Libanais. On s'en fout du fait que quelqu'un soit chrétien, musulman, bouddhiste, athée, etc. Il ne faut plus insister sur cela. C'est notre catastrophe libanaise, le fait de dire qu'il y a... C'est un petit pays avec 18 confessions différentes, tralala, assez avec... C'est cliché, je n'en peux plus. Pardon, mais je n'en peux plus.
Eh bien, écoutez, Daniel Hervid va vous répondre sur ce point, justement.
Non, mais je suis d'accord. Après, Joumana, elle est là-bas, moi, je suis là. Donc, oui, c'est tout à son honneur de penser qu'on peut effacer toute cette histoire. Toute cette histoire, mais qui est vraiment l'histoire du Liban, qui est ancrée aussi dans notre mentalité. Et j'espère qu'elle aura raison, en fait. Mais quand je vois des jeunes du Hezbollah qui ont 20 ans en train de tabasser les autres, je ne sais pas s'ils sont pas vieux, ils sont jeunes, ceux-là. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est pas une question de parti, de religion, Je ne sais pas, j'espère en tout cas que toute la population en a marre. C'est pas que certains en ont marre. Mais moi, je suis d'accord avec elle. Moi, j'en ai marre aussi. Mais on est tous main dans la main, en fait, on espère.
Joumana Haddad, quand vous entendez le président français enjoindre le gouvernement libanais de changer, enjoindre les élites libanaises de faire autrement, etc., et que vous voyez qu'effectivement ça n'a pas beaucoup d'effet, puisque nous avons passé la date du 15 septembre qui devait être le moment où un gouvernement aurait pu s'instaurer. Qu'est-ce que vous dites de cela? Parce que, tout compte fait, ce que je disais tout à l'heure aussi à Daniel Arbide, c'est la France, ou le président français, parle au nom du Liban.
J'ai honte, non pas parce que c'est le président français ou que ce soit la France. J'ai honte parce que, comme vient de le dire Daniel, nous n'avons pas un président. Nous avons c'est-à-dire une illusion de président, quelqu'un qui n'a aucune vision pour ce pays, aucun sentiment de responsabilité à l'égard de son peuple, et donc j'ai honte pour mon pays, j'ai honte que nous soyons arrivés au point où il devrait y avoir quelqu'un, d'ailleurs ce n'est pas nouveau, nous avons toujours eu cette tendance à recevoir des directives de l'extérieur, que ce soit la France ou d'autres pays. Et ça continue avec Hezbollah et l'Iran, avec l'Arabie Saoudite et une partie des sunnites du Liban, etc. etc. Mais ce qui vraiment, je dirais, peut-être c'est une exagération pour vous, mais je dirais que ça me brise le cœur. Le fait que toutes ces pressions qui ont été faites n'ont pas pu aboutir à aucun résultat. Il est pour moi inconcevable que nous sommes aujourd'hui le 25 septembre, c'est-à-dire plus d'un mois et demi après l'explosion du 4 août, et que personne n'a été responsabilisé ou tenu, a dû faire des comptes à nous qui nous avons souffert toutes ces pertes. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne. Je trouve que c'est tout à fait le contraire de l'État. Donc, le fait que le président français ait dit cela, ça prouve non pas que le président Macron a l'arrogance de se permettre de donner des directives à un autre pays, ça prouve que cet autre pays qui est le Liban n'est pas un État adulte. C'est un État mineur et il le restera tant que nous ne sommes pas débarrassés de cette bande de voyous. Malheureusement, la faute du président Macron, c'est d'avoir accepté les compromis et d'accepter de travailler avec cette bande de voyous au lieu de d'écouter l'appel du peuple et de dire nous ne voulons plus de vous. Ce nouveau gouvernement doit être fait d'indépendants, d'experts indépendants, pour que nous puissions un peu sortir de cet abîme où nous sommes tombés.
Daniel Arbide.
Écoutez, moi je suis partagée parce que j'ai trouvé que la première visite du président Macron était très belle, était à la portée du réconfort aux gens. Il a fait un très beau geste de marcher dans la rue, de côtoyer ces gens, de les serrer dans ses bras une semaine après, je pense, c'était une semaine après l'explosion, chose qu'on n'a jamais vue au Liban. On ne voit pas les politiciens venir, on ne les voit pas, ils sont invisibles. Personne n'a jamais parlé. Ils ne font pas de bain de foule, ils n'existent pas. Ils sont, ou haïs ou fantasmés, mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc il a quand même apporté une sorte de...
Un geste.
Un geste, mais au-delà du geste, une sorte de modernité de la politique au Liban. Et presque s'il leur a fait marquer... s'il leur a fait une gifle au président libanais et aux politiciens libanais en venant marcher sur leur territoire, en fait. Et ça, c'était... et surtout, pour moi, ce qui m'a touchée, c'est plus le dans cette rue dévastée, dans ce coin de la ville dévastée, le réconfort que
qui
ça
est votre
a...
coin, d'ailleurs. C'est
oui,
là.
C'est là que que ma famille habite. Et c'est là que j'ai grandi. Mais c'est surtout le réconfort qu'apporté à ces gens-là, qui est un quartier d'artisans, aujourd'hui d'artistes, mais et qui est très métissé comme quartier. C'est un très vieux quartier qu'on peut comparer un petit peu à Paris, à des quartiers comme le troisième avant, hein, avant qu'il soit... voilà. Donc, je me suis dit... tiens, c'est superbe et ça m'a touchée. Et après, la seconde visite, je me suis demandé qu'est-ce qu'il vient de négocier, à vrai dire. En fait, je suis d'accord quelque part avec Joumana. Pourquoi il négocie avec ces gens-là qu'on ne reconnaît pas, on ne les reconnaît pas.
Et en tout cas, effectivement, voilà. Ça ne marche pas. Même la demande de la France, pour l'instant, de pression forte et convergente de ses alliés, de tous ceux qui participent à ce groupe international de soutien, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne et la Ligue arabe, eh bien, ça n'a pas encore donné, en tout cas, de résultats. Vous écoutez La Conversation mondiale, l'émission spéciale du vendredi du Temps du débat. Nous sommes avec donc une écrivaine, Joumana Haddad, activiste également et journaliste au Liban, et une cinéaste, Daniel Arbid.
France Culture, Mouhadathat Alamiya, Waqt Niqash.
Alors, si on parle d'autres façons de parler du Liban, et qui peut-être sont les façons des écrivains, écrivaines, cinéastes que vous êtes, il y a évidemment dans votre œuvre, Daniel Arbid, toute une part consacrée en particulier à la guerre du Liban, qu'on fait toujours ressurgir dès qu'il s'agit de parler du Liban, du moins en France. Et on voit effectivement que il y a des écrivaines comme Dominique Hédet, qui récemment a fait une tribune qui s'appelait « Le Liban, c'est le monde à laisser », qui font monter le Liban, non pas de tout petit pays, mais d'une sorte de modèle, malheureusement, de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait nous arriver. C'est un beau texte, d'ailleurs, où elle pointe du doigt ce qu'a dit le président français, justement, les fameux raisonnements circulaires, dit-elle, des Libanais, comme une sorte de serpent qui se mord constamment la queue. Et elle dit « Si ce Liban se vide de son sens, de ses différences, de sa jeunesse, il sera le signe avant-coureur d'une catastrophe bien supérieure à celle qui se vit actuellement sur son sol. » Qu'est-ce que vous pensez d'un texte comme celui-ci qui, d'une certaine façon, sort le Liban du contexte actuel pour en faire une sorte de modèle ou de contre-modèle ? Daniel Arbid.
Moi, j'admire beaucoup Dominique Hédet, et puis j'ai lu quelques articles qui sont sortis justement récemment suite à l'explosion de Beyrouth dans Le Monde, et je crois dans Libération aussi. Je ne sais pas si on parle du même, mais je comprends aussi cette idée d'empêcher les gens demander de rester, d'espérer, de se lever le matin et de se projeter dans l'avenir, un avenir qui n'est pas, quoi.
Et pour l'instant, en tous les cas.
Pour l'instant, un avenir. Enfin, je me demande comment les gens à Beyrouth peuvent se lever chaque matin, aujourd'hui, avec quel espoir, avec quel... goûter au plaisir simple de la vie, tout en se disant demain pourrait y avoir une autre explosion, demain il pourrait venir dans nos maisons, enfin je veux dire, c'est une sorte de choc absolu. Même moi, enfin des gens comme moi qui habitent à l'étranger, tous les Libanais du monde, ils sont choqués. Enfin on est donc comment demander à ces gens-là de sacrifier quelque part pour le Liban. Il y a eu tellement de gens sacrifiés pour le Liban. Mais pourquoi, en fait? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on trouve pas la raison. On trouve pas la réponse à cette question. Pourquoi? Il n'y a rien qui prouve que ces gens-là qui sont morts, qui ont été tués, il n'y a pas une plaque, il n'y a pas un souvenir d'eux, il n'y a rien dans ce pays.
Il n'y a même pas d'histoire commune.
Il n'y a pas d'histoire commune, en fait. Tous les jours,
en tous les cas,
tous les jours, des gens disparaissent et on oublie ce qu'ils ont fait, leurs traces. Et ça me rend très en colère, en fait, contre ce qui se passe. Évidemment, pas contre ce que dit Dominique Aidé, que je trouve magnifique, mais on a beaucoup de colère en nous, en ce moment.
Et pourtant, vous ne voulez pas, vous qui vivez à Beyrouth, Joumana Haddad, que ce pays, et vous-même, en tant que féministe, par exemple, soit considéré comme des gens qui se sacrifient. Vous pensez justement qu'il faut sortir de cette logique de la douleur et qu'il faut agir, être activiste, justement.
Oui, mais il faut dire que je comprends parfaitement les gens qui partent, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent pourquoi on doit rester, mais si on prend la décision de partir et si on peut se permettre de partir, on se sent coupable. Moi, je les comprends parfaitement. Mais il faut dire que l'espoir, ici, il n'existe pas. On se l'invente. Chaque jour, chaque matin, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de désespoir, c'est notre quotidien. Mais pour moi, cette tendance à insister sur ne voir que ça, pour les gens qui, ou bien par choix, ou bien par faute de choix, restent ici, ça peut être, vénéneux. Et donc, je préfère jouer la comédie sur moi-même et m'inventer un espoir qui n'existe pas, parce que chaque soir, je vous le confesse, chaque soir, quand je dors, je sens sur mes épaules le poids un poids surhumain. C'est-à-dire, je préfère ne pas me lever le matin. Je suis tellement meurtrie et fatiguée juste par le fait de vivre et de survivre dans ce pays. Mais chaque matin, je dois m'inventer quelque part une raison pour exister. Et moi, je reste parce que je pourrais partir. Moi, je reste parce que je refuse d'être obligée de partir. Si je pars, ce devrait être un choix pour moi. Je ne veux pas partir parce que cette bande de voyous ne peut pas accepter qu'il y ait des voix différentes dans ce pays. Tout à l'heure, Daniel a parlé de la gifle qu'administrait la visite de M. Macron la première fois lorsqu'il est descendu dans la rue. Mmh. En effet, il faut dire que les gifles, elles font mal à ceux qui ont un minimum de dignité et d'honneur. Et les gens qui nous gouvernent n'en ont pas. Ils ont juste une insolence criminelle insupportable. Et donc moi et beaucoup d'autres préfèrent mourir de faim, je vous le dis, que de voir ces mafieux ressusciter financièrement. Donc, je prie toutes ces autorités internationales qui veulent aider le Liban, et nous sommes reconnaissants à ceux qui veulent nous aider, de ne pas le faire à travers ces gens-là, parce que ça va nous tuer encore une fois. Et déjà, moi, je suis morte plusieurs fois dans ce pays. J'ai 50 ans, j'en ai marre de mourir. Je veux vivre.
Alors, il y a aussi une dimension très forte qui vous rassemble, pourrait-on dire, Joumana Haddad et Daniel Arbit, c'est la question de la femme, du féminisme. Vous avez votre dernier film, Passion simple, est adapté évidemment du très beau livre d'Annie Ernaux. Il a été sélectionné pour le Festival de Cannes en ligne 2020, justement, Daniel Arbit. Cette question-là, c'est une question extrêmement importante, j'ai l'impression, de ce qui surgit, de ce qui vit et de ce qui pourrait devenir plus important encore dans ce pays, au Liban, en Annie Arbit. La question des femmes, la question des féministes et la question, effectivement, de la place des femmes dans l'espace public, l'espace politique de ce pays.
Oui, et plus que tout, la question de l'individu d'abord, parce que j'ai l'impression qu'au Liban, c'est très clanique. Moi, je suis partie par choix, justement, il y a longtemps, parce que la famille m'étouffait, alors que j'adore ma famille, c'est pas tellement ça, mais le fait que tout est encerclé comme ça. Et donc, je pense qu'au-delà de la femme, c'est l'homme aussi, c'est le jeu face au nous, c'est ça. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est en ça qu'on peut s'affranchir, et effectivement, comme dit Joumana, de la religion, du tout, quoi. C'est d'être un citoyen une personne qui ne pense pas comme son père et son grand-père et son ancêtre, parce qu'elle appartient à ce clan, parce qu'elle vient de ce village. Donc, c'est de dire, d'affirmer sa pensée. Et effectivement, il y a des gens formidables et merveilleux, bah, comme Joumanin, qui dit « moi, je préfère, je trouve ça très courageux, vivre et mourir là, plutôt que de... » et au-delà de je ne condamne pas du tout les gens qui partent, et moi je suis partie, c'est au contraire, c'est deux choix différents. Mais effectivement, les femmes, oui, elles sont manquantes dans la politique. Enfin là, j'ai l'impression qu'ils ont nommé des femmes juste pour faire semblant. Mais on a envie d'avoir des femmes, et des femmes merveilleuses. Enfin, je lis des textes de femmes, j'entends des femmes... dans les manifestations, on voit des femmes prendre des gaz dans la gueule, on voit des femmes se battre, on les voit, elles sont visibles, les femmes au Liban, c'est pas comme si elles sont cachées, hein. Mm-hmm. et pourtant elles sont invisibles dans
la sphère politique.
Dans la sphère politique, oui.
Oui, sur ce point, Joumanin Haddad.
Que dire, évidemment, je trouve ça scandaleux, le fait qu'on ait juste 6 députés femmes. En 2018, enfin, après 4 députés femmes pendant une dizaine d'années, et ce, dans un Parlement de 128 personnes. Mmh. Donc oui, l'individu, évidemment, mais aussi et surtout la femme, parce qu'il y a des cercles dans cet enfer où nous sommes. Et l'homme souffre aussi, mais la femme souffre beaucoup plus dans un pays où, tout d'abord, les affaires des gens, je ne vais même pas dire les citoyennes et les citoyens parce qu'ils n'existent pas, il n'y a pas de la citoyenneté au Liban. Les affaires des gens sont gérées par les différentes cours religieuses au lieu d'avoir des lois qui nous donnent l'égalité que nous méritons et les droits que nous méritons. Mais aussi dans un pays où la vie politique aussi est découpée, c'est comme un gâteau qui est découpé sur les confessions différentes. Et c'est pourquoi j'ai commencé à dire avec tellement peut-être de colère que je ne peux plus supporter d'entendre parler de la pluralité des religions au Liban, parce mm-hmm. que évidemment, tant qu'on insiste sur ça, on ne va jamais devenir citoyen. Donc, il nous faudra beaucoup plus de femmes dans la vie politique. Et il y a des femmes, en effet, magnifiques, qui ont des capacités incroyables. Et il faut le dire aussi, cette révolution du 17 octobre, parce que je n'ai parlé que des jeunes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait aussi cette révolution. Cette révolution pour elles-mêmes aussi, et non pas seulement pour les droits des citoyens et des citoyennes, mais pour elles-mêmes, pour leur propre dignité, pour leurs propres droits. Et il faut arrêter de dire, parce qu'on l'entend chaque jour ici, que les droits des femmes, ce n'est pas une priorité maintenant. Il nous faut de l'électricité, il y a les problèmes avec le dollar, notre situation économique est désastreuse. Oui, mais aussi nos droits et notre dignité sont une priorité et on ne va jamais être intimidé afin d'arrêter de le dire.
Dans le texte qu'il nous a confié pour la conversation mondiale, le violoniste de Mashrou Leila, Haïg Papazian, depuis New York, nous a écrit un très beau texte qui s'appelle « Beyrouth et Beyrouth, travail en cours », dans lequel il insiste sur l'idée de la possibilité de la mort de la ville, de la mort de Beyrouth. Alors, on imagine que c'est arrivé dans l'histoire, des villes qui meurent, mais c'est rare et de toute façon ça se produit généralement après d'immenses catastrophes qui les font disparaître. Mais on a l'impression aussi que Beyrouth cache l'ensemble du pays, l'ensemble du reste du Liban, c'est-à-dire que quand on parle du Liban, on parle d'abord et peut-être surtout de Beyrouth en oubliant le reste. Daniel Arbide, vous avez travaillé sur cette ville de Beyrouth en tant que cinéaste. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette prédominance de l'image de Beyrouth à l'étranger, et donc de ceux qui parlent sans le connaître du Liban?
Oui, moi j'ai fait en fait un film qui s'appelle « Seul avec la guerre » en 2000. C'est un documentaire, j'en ai fait deux documentaires, le reste c'est de la fiction. Et à travers ce documentaire, j'ai sillonné les quartiers de la ville. Et en fait, ce que je peux dire, même c'est pas Beyrouth qui prédomine, c'est le front de Beyrouth, celui qui a explosé, qui prédomine. Parce que derrière, derrière, il y a des quartiers inconnus des Béroutins. Il y a des quartiers incroyables qui sont aussi Beyrouth. Les quartiers chiites populaires, personne n'y va en fait. C'est pas, personne ne met un pied là-bas, à part les gens qui y habitent. Et les quartiers populaires aussi de l'autre côté. En fait, tout cela, moi, j'ai découvert une ville incroyable derrière, qui est cachée derrière la ville qui est devant, que je connais, qui est tout le front de mer, qui est panaché aussi. C'est pas une question de chrétiens musulmans, qui est tout, bien sûr, tout le front de mer. Il y a la ville arrière. Et cette ville-là, elle est pauvre, elle est malmenée, elle est cachée. Comme on cache un parent
derrière un paravent.
Voilà, ou comme on met un, voilà, dans. Et ensuite vous avez la banlieue, et ensuite vous avez les montagnes du Liban et les villages, voilà, qui sont connus. Enfin, après, non, la ville de Beyrouth, elle est à peu près, il y a 2,5 millions d'habitants sur une population générale de Libanais de 4 à 5 millions. Donc oui, c'est quand même une grande, elle contient la moitié du Liban, donc c'est normal qu'on en parle de cette manière-là. Et puis elle est tellement magique, c'est une magnifique ville, métissée, moderne et décatie, vieille et nouvelle, voilà, nocturne et très conservatrice par endroit, et très fêtarde. Donc c'est une ville qui concentre le monde aussi. Voilà.
Sur ce point, Jumana Haddad, la fin de notre conversation est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette prédominance dans l'imaginaire de ceux qui parlent du Liban, de la figure de Beyrouth?
Oui, mais je dois dire, parce que ça m'a frappé le fait que le violoniste ait parlé de la mort de Beyrouth. La mort, on le sait, n'est pas que physique ou matériel. Donc oui, Beyrouth est morte plusieurs fois, pas juste...
C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce texte.
Historique, oui, mais il faut aussi penser que les fins sont nécessaires pour qu'il y ait des débuts. De toute façon, moi, je me le répète chaque jour afin d'y croire, un début pour lutter à nouveau, pour créer, pour écrire, pour nous inventer un futur différent. Et donc, en effet, si elle est morte, cette ville, ou une partie de cette ville, ça ne veut pas dire qu'elle est morte pour toujours. Et quand une partie d'une ville est morte, ça veut dire aussi que cette mort se propage dans le cœur des autres. Et donc, il faut nous aider. Il faut nous aider l'un l'autre et nous encourager pour que ce soit vraiment un début.
Merci beaucoup Jumana Haddad d'avoir été avec Daniel Arbin en discussion, une discussion très riche justement autour de la question libanaise. Vous savez que tout le programme de France Culture ce week-end traitera de l'avenir du Liban. Comment penser l'avenir du Liban? Demain matin, Amin Maalouf et Hassan Salamé dans les matins du samedi entre 7h et 9h. Demain, dimanche après-midi entre 17h et 18h, Mathias Sénard recevra dans son émission littéraire La Salle des Machines des écrivains comme Sharif Majalani ou encore Lamia Ziadeh, également un message de Dima Abdallah, et également dans Soft Power de Frédéric Martel à 18h dimanche, et bien Ernesto Otoné Ramirez, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, viendra parler également de cette opération. Puis surtout, c'est une opération qui se tient à l'Institut du Monde Arabe, 24 heures pour le Liban, à partir de ce soir. Ce soir, une performance lue et filmée par le dramaturge, acteur et metteur en scène qu'on connaît bien, Wajdi Mouawad, et puis ensuite, Bachar Markel au piano, Sari Khalifé au violoncelle, la chanteuse Camélia Jordana et bien d'autres. C'est ce soir et ça sera demain soir également sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Merci et puis lisez le texte, très beau texte qui nous a été envoyé par Aïk Papazian, violoniste de Machrou Leila, Beyrouth et Beyrouth, travail en cours. C'est sur la page de la Conversation Mondiale de France Culture. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Daniel Arbid et merci à vous Jumana Haddad. C'est C'était le temps du débat. Antoine Tricot, Rémi Bailly, Imane Gilles, Fanny Richer et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein. Et à la réalisation, Alexandre Manzanares. Le temps du débat de demain, vous savez, il y en a désormais un, le samedi, présenté par Raphaël Bourgois. Une citoyenneté libanaise est-elle possible, avec Aurélie Daher, Ziad Majed et Laure Stéphane. Nous en allons parler un peu dans cette émission de la Conversation mondiale. Dans 3 minutes, vous allez retrouver Arnaud Laporte pour Affaires culturelles avec Thomas Lévillane. Et vous écoutez France Culture. Il est 19h. Les titres de l'actualité sont présentés par Marie-Hélène Duvigneau. Bonsoir Marie-Hélène.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous.